N'ayez jamais peur.
Vous avez peur de quoi? Vous avez peur de qui?
Et le but! Et le but!
Oui, Michel!
Aucune chance! Mais aucune chance!
Je pense que c'est votre année.
Premier poteau, but! But de Zidane!
Alors, où on réagit? Et on y va! Parce qu'il y a une finale au bout, ou vous laissez tomber?
Ouais, Girona!
Oui, 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 mon petit bonhomme, bravo!
Et donc, c'est maintenant que vous devez gagner.
Second poteau, Pavard!
Alors je compte sur vous.
La Marseillaise pour accompagner ces moments de gloire de notre foot, Willy. Évidemment, ça rentrerait dans ce panthéon-là, hein, si on gagnait ce soir face aux États-Unis.
Oui. Et puis on a été gâté l'été dernier par les garçons, et on veut voir la même chose ce soir. C'est tout. Il y a rien d'autre à dire. On peut pas se permettre de s'arrêter en quart de finale. Non, Laure.
Bah oui, ça serait forcément. Une déception maintenant.
Une déception.
Ça serait une déception. Mais moi, j'essaie. Non, mais je veux relativiser par rapport aussi à l'adversaire. On sait, les États-Unis, première nation mondiale, le plus gros palmarès du football féminin. Quand on regarde aussi le nombre de confrontations entre la France et les États-Unis, bah clairement la balance elle penche du côté des Américaines. Donc pour moi, je vois plutôt justement si la France gagne ce soir, moi je vois plutôt aussi un exploit parce que les Américaines aussi n'ont jamais perdu en quart de finale d'un mondial et se sont toujours hissées dans le dernier carré. Donc a priori sur le papier, un déséquilibre entre les deux équipes, mais on a un petit peu déçu quand même de cette équipe de France depuis ce début de mondial. Et j'ai l'impression que ce match, ça va être comme un déclic. Je les sens beaucoup plus sereines et j'ai l'impression que le fait que la pression se soit si un peu inversée, elles abordent ce match en tant qu'outsider. Et je pense que ça va se retranscrire sur le terrain. Je les sens, ça se voit même dans les conférences de presse. J'ai même trouvé Corinne Diacre beaucoup plus détendue. Il y a des joueuses, Amandine Henry qui...
Ah bon? Tu l'as trouvé plus détendue?
Oui, je trouve que je l'ai trouvé beaucoup. Hier, je l'ai trouvé beaucoup plus détendue.
C'était à cause de la canicule.
Non, mais elle a raison, Laure. Elle a raison, c'est vrai que Corinne Diacre est plus détendue. Pourquoi? Parce qu'elle sait que, sincèrement, si elle passe contre les États-Unis, c'est un exploit. Parce que l'équipe de France n'a jamais battu les États-Unis en compétition, elle l'a battue simplement en match amical,
ouais, en janvier dernier.
T'as raison, et surtout c'est la dernière défaite en fait des États-Unis. Ouais, ça
en 41 matchs.
3-1, c'est
ça. C'est ça, 3 au mois de janvier dernier. Ouais.
Alors faut savoir qu'il y avait que, je crois, sur l'équipe type qui va avoir peut-être ce soir 4 ou 5 joueuses.
Il y avait quelques cadres quand même qui jouaient, mais il manquait quand même beaucoup de joueuses. Et il y a des joueuses aussi qui ont été repositionnées.
Non, mais sincèrement, c'est un exploit. Et c'est pourquoi Karine Diacre est détendue, c'est qu'elle se dit. J'ai pas besoin de motiver mon équipe. Si elles sont pas motivées pour un match contre les États-Unis en quart de finale d'une Coupe du Monde, c'est qu'il faut arrêter le football. Donc, l'exploit, il est au bord, là. C'est vrai que ce sera un exploit parce que les États-Unis est l'équipe tenante du titre et que on a vu les matchs, on a vu un rouleau compresseur physique, peut-être pas technique, peut-être pas si tactique que ça, mais physique, on a vu des monstres. Si les filles, les Américaines sont motivées et physiquement prêtes parce qu'elles ont moins de repos que les Françaises, ça peut être une catastrophe.
Mais les Françaises ont joué la prolongation.
Ouais,
sauf que la fédération et Noël Le Graët a dit finale. Ouais. Minimum. Donc il a mis la pression.
Mais bien évidemment,
et la
quand on organise cette.
Donc même si effectivement le parcours, il faut que ça rentre en compte.
Oui.
Si tu sors après un début de mondial, franchement compliqué pour l'équipe de France. Il restera quand même un goût amer
si tu sors, mais bien sûr que c'est un échec.
Ouais.
Mais c'est un échec. Et je dirais que
tu
même c'est un échec
contre
cuisant.
La meilleure équipe du monde,
c'est un échec
cuisant. Pourquoi? Pourquoi? Mais non, mais parce qu'il faut. Reprenons les choses. Tu as en 2011. Tu fais demi-finale.
Demi-finale, bah, contre les Américaines ou mon père.
Voilà. Tu en sais, tu
je sais parce que j'ai joué ce match-là. Donc.
Mais c'est pour ça que j'aime bien en reparler. Toi, on me reparle toujours de 2006.
Il m'a même dit, mais c'est pour ça qu'elle a perdu. Il m'a dit tout à l'heure.
C'est pas faux. Il y a une erreur de marquage sur le deuxième but.
Non, mais c'est.
Pour honnêteté, alors.
T'as pensé que j'avais dit ça, mais c'est quand t'étais en train de faire le poirier dans le studio.
Mais t'as pas bien entendu ce que j'ai dit. Je veux faire mon yoga.
Non, moi, ce que je veux dire, c'est voilà. 2011, on fait une demi-finale. C'est un peu le déclic. C'est un peu le. L'ouverture au grand public du foot féminin. Et derrière, et pour l'avoir vécu, il faut quand même se dire qu'il y a eu, alors on n'est pas là pour les compter, mais il y a quand même eu énormément de millions de dépensés à travers des programmes, notamment le foot des princesses. Mm-hmm. Des choses qui ont, de toute façon c'était génial, il fallait le faire, j'ai rien contre ça. Mais en 2011, tu pars, je dirais, aujourd'hui t'es en 2019, t'as quasiment deux fois plus de licenciés, tu ne peux pas avoir des résultats moindres que ce que tu faisais à un moment donné où il y avait moins d'argent, moins de structure, moins de joueuses.
Mais le tableau aussi, il est pas le même forcément. Voilà. Si tu perds un quart de finale contre une équipe qui potentiellement est moins bien classée que toi aussi au classement FIFA, je pense que là t'aurais aucune indulgence.
Moi je pense qu'il faut savoir traiter les filles comme on traite les garçons et de se dire quel que soit l'adversaire.
Quel que soit l'adversaire. C'est là la problématique, c'est qu'on regarde pas un match, on se dit elle perd en quart de finale, c'est dégueulasse. Non, si elle tape quatre fois sur le poteau, qu'elle perde au penalty, tu peux pas dire ouais. Ah non mais c'est un échec cuisant. Ben non, le football t'amène à avoir à un moment donné un peu de retrait, de recul où tu dis elles auraient dû passer, elles sont pas passées, elles ont quand
messieurs
même pas
dames,
eu le bol. On peut pas leur taper
dames.
Sur la gueule.
Anthony Reich nous appelle aux abords du Parc des Princes, envoyé spécial RMC Sport au plus près des Bleus depuis le début de ce mondial. Bonsoir Anthony.
Salut Louis, salut à tous.
Tu vas nous parler des Américaines dans un instant, mais d'abord tu as des infos, des dernières infos sur l'équipe de France, Anthony.
Oui, on vient d'avoir justement, grâce à nos informations, la composition du 11 de départ qui va débuter ce soir donc face aux États-Unis. En fait, Corinne Diacre a décidé de reconduire le 11 qui était aligné face à la Norvège, c'est-à-dire Sarah Boady dans les buts de droite à gauche au niveau de la défense, Marion Thauran, Gridje Mbogbati, Wendy Renard et Amel Majri. Dans l'entrejeu, la capitaine évidemment Amandine Henry accompagnée d'Élise Bussaglia, Gaëtan Tiné qui reste donc à son poste au niveau de meneur de jeu, et puis sur l'aile gauche Eugénie Le Sommer, dans l'axe Valérie Gauvin et à droite Kadi Diatou Diani.
Excellente info, merci beaucoup Anthony. On débat de cette compo dans un instant. D'abord, rappelle-nous également pourquoi les Américaines nous font peur. François a commencé tout à l'heure à égrener des chiffres, une seule défaite en 42 matchs, mais il y a d'autres raisons de les craindre, ces Américaines.
On va essayer de trouver peut-être quelques points positifs, mais c'est vrai que quand on regarde l'équipe des États-Unis, c'est tout simplement ce qui se fait de mieux au monde depuis pas mal d'années. Triple championne du monde, numéro un mondial depuis aussi pas mal d'années. 4 titres olympiques. Elles sont toujours programmées pour aller au bout des compétitions. Et il faut savoir que quand même, cette équipe-là, à chaque fois, part en camp d'entraînement pendant plusieurs mois. Donc quand l'équipe de France, justement, les a battues en janvier dernier, derrière, elle commençait cette grosse préparation, puisque les joueuses américaines sont à la disposition de leur fédération, et donc elles étaient en dehors de leur club, et c'est comme ça qu'elles arrivent à réussir et à avoir tous ces titres dans les grandes compétitions internationales. Et puis surtout, l'équipe des États-Unis, c'est aussi une ribambelle de grandes joueuses. On peut citer dans l'histoire des États-Unis Abby Wambach, près de 200 buts avec la sélection, et puis dans les joueuses actuelles, comment ne pas citer Alex Morgan, l'attaquante superstar, la joueuse la mieux pays au monde, qui frôle déjà les 110 buts. Elle est à 106 buts sous le maillot national, 5 buts dans cette Coupe du Monde. Megan Rapinoe aussi, un talent incroyable, même si elle est plus en fin de carrière avec ses 33 ans passés par l'Olympique Lyonnais, notamment dans la saison 2013-2014, et qui fait un début de Coupe du Monde exceptionnel. Et puis l'expérimenté Carly Lloyd, évidemment, qui n'a plus le lustre d'antan, et on se rappelle de cette finale incroyable lors du Mondial 2015 qu'elle avait survolé avec un but notamment quasiment du milieu de terrain. Elle a été élue meilleure joueuse du monde par le passé. Toutes ces choses-là font que l'équipe des États-Unis paraît presque imbattable, mais il y a des failles, et notamment côté gauche, au niveau du couloir gauche, avec Crystal Dunn qui peut laisser des espaces aux attaquantes françaises.
Dis-moi, si tu parles de légende, tu dois nommer en premier Mia Hamm.
Ah oui, ah
oui. T'es obligé. Oui, Mia Hamm, l'attaquante des années 90, effectivement. Deuxième meilleure buteuse de l'histoire de la sélection.
Magnifique.
Merci beaucoup Anthony Reich en direct du Parc des Princes. On te retrouve évidemment tout au long de cette soirée sur RMC. On vous rappelle, dès 20h, intégrale Coupe du Monde avec Jean-Christophe Drouet, le match en intégralité à 21h. On a donc la compo de cette équipe de France, la même que face à la Norvège. Valérie Gauvin reste donc en pointe. Eugénie Le Sommer toujours côté gauche. Laure, est-ce que cette compo, elle te convainc?
Déjà, je pense que c'était nécessaire de repasser en 4-2-3-1 face aux Américaines. Il fallait densifier le milieu de terrain, donc c'est important. Faire confiance, même si depuis ce début de mondial, elle donne pas totale satisfaction, Gaëtan Tiné. Je pense que c'est important dans ce genre de match de mettre aussi des joueuses d'expérience. Moi, ce qui me dérange un tout petit peu...
Mais elle a fait une bonne rentrée contre le Brésil.
Ouais,
elle a amené du dynamisme qui nous manquait.
Un petit peu plus de liant. Moi, ce qui juste me dérange, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de complémentarité avec Valérie Gauvin dans l'axe. C'est plutôt ça. On a l'impression qu'elle lise pas le même football. Valérie Gauvin est toujours un peu à contre-temps dans les appels. J'aurais aimé en fait voir cette complémentarité Eugénie Le Sommer, Gaëtan Tiné, parce que je pense qu'il y avait matière, et que peut-être dans cet axe de cette défense, une intelligence dans les déplacements de de Ginny Le Sommer aurait été intéressante.
Et elle, est-ce que, pardon, est-ce que
ouais, la, non, mais je voulais parler de la petite Gauvin. C'est, elle a un profil très très clair. C'est
point d'appui,
point d'appui. C'est celle qui va faire les courses dans la profondeur. D'avoir une relation technique avec ce genre de joueuse, c'est extrêmement compliqué. C'est extrêmement compliqué parce que c'est vrai qu'on a l'impression que le ballon lui brûle un peu les pieds, mais elle se bat, elle s'arrache.
Et elle a marqué deux fois.
Moi, alors, toi, tu parles, tu aurais voulu voir peut-être une association Tiné.
Après, c'est dur de le faire maintenant.
Ouais, moi, j'aurais peut-être préféré une association Le Sommer.
Gauvin.
Non, la petite Diani, ouais.
T'aurais joué à deux attaquants.
Ouais.
Mais est-ce que Diani est pas plus performante sur un côté depuis le début?
Après, moi, pour avoir...
Diani, c'est pour moi, c'est une, comment dire, c'est une dynamiteuse de défense. C'est-à-dire qu'elle a, elle est beaucoup dans le dribble, elle est beaucoup dans la percussion, elle est beaucoup dans la, je dirais dans la provocation. Quand elle est sur un côté, je la trouve loin de la cage adverse.
Et elle a beaucoup plus de repères. En fait, moi, pour l'avoir énormément côtoyée,
mais bien sûr qu'elle a plus de repères.
Elle a vraiment ses repères sur ce côté droit. Et même quand elle a joué à deux attaquantes, on voit ses appels, ils vont forcément tout le temps vers le côté droit pour aller centrer.
Elle avait marqué deux buts contre les États-Unis
en pointe.
Ça, c'est pas très grave parce que justement, si elle va sur le côté droit, c'est-à-dire qu'elle se retrouve dans le dos de l'arrière gauche qui laisse beaucoup d'espace, et là après elle peut mettre des centres. On l'a vu, c'est comme le deuxième but face aux Brésiliennes. Moi je pense que Franck nous parlait tout à l'heure, nous dit si elle tire quatre fois sur les poteaux, on pourra pas parler d'échec. Moi je suis désolé, mais si on enlève les coups de pied arrêtés, on doit être à quoi en quatre matchs? 6 occasions franches?
Oui, certainement.
Donc tu penses qu'on va tirer quatre fois sur les poteaux dans un match?
Mais c'est surtout en termes de nombre de tirs cadrés, ça a été compliqué.
Il peut y avoir des miracles parfois ou des surprises, mais il y a une chose, c'est que depuis le début de la Coupe du Monde, offensivement, ce qu'on propose, c'est proche du néant. On a pris l'avantage parfois sur nos adversaires parce qu'on avait plus de talent. Mais en termes d'animation offensive, moi je trouve que ça ne fonctionne pas avec cette petite Gauvin, ça ne fonctionne pas parce qu'il n'y a pas de relation technique plein axe.
Mais Corinne a essayé autre chose contre le Brésil où elle a fait rentrer ACI à la place de Gaëtan Tiné, donc on était à vraiment quatre attaquantes.
Oui, mais tu gardes Gauvin.
Oui, mais
dans le profil.
Oui, mais bon, on est dans le même profil. Enfin, moi, c'est le même problématique avec Didier Deschamps et avec Olivier Giroud. Un point de fixation dans l'axe. Ce qu'elle fait, Nathalie, c'est ça?
Valérie.
C'est Valérie, Nathalie, c'est Nathalie.
Ouais, mais Franck, je t'arrête tout de suite. Oui, il y a Giroud. Ouais. On pourrait dire ça pourrait être un peu le Gauvin des filles ou Giroud c'est la Gauvin des garçons, mais autour il y a pas de Mbappé, il y a pas de Griezmann en équipe de France.
Bah, mis à part Diani quand même. Diani.
Et normalement,
Diani, on peut dire c'est comme Mbappé. Et là, si tu la mets trop loin de la cage adverse, et ben à un moment donné
c'est une joueuse aussi qui a besoin d'espace. Et quand on a vu quand même qu'elle face à des défenses plutôt resserrées et positionnées derrière, elle a été quand même plus en difficulté. Et je pense que la clé quand même de ce match, parce que je reviendrai quand même au match de janvier, même si face aux États-Unis, même si l'équipe était un peu différente, moi je l'avais commenté ce match et j'étais au stade. Et c'est peut-être pour moi la prestation la plus aboutie sous l'ère Diacre. Alors il y avait Cascarino à droite, il y avait Diani devant et il y avait Le Sommer à gauche. Parce que j'avais trouvé surtout une équipe qui avait été cohérente collectivement. Et depuis le début, j'ai l'impression que parfois, il y a quand même... des erreurs dans le cadrage, on a l'impression que des fois ça vient un temps en arrière, on est tout le temps un petit peu en retard. Et là où j'avais été très impressionnée, c'est que collectivement les dépassements, ils avaient été hyper coordonnés et que derrière, ça avait été facile dans l'exploitation en fait du ballon. Et c'est pas le cas, je les trouve parfois à la récupération du ballon un peu désorganisés et ce qui leur permet pas de se projeter vers l'avant.
On va demander à Philippe ce qu'il en pense. Philippe qui nous appelle au 32-16 et qui est avec nous dans Ici c'est Willy. Bonsoir Philippe.
Oui, bonsoir.
Salut Philippe.
Alors déjà, en préalable, je dois dire que j'étais pas converti au foot féminin et grâce à cette Coupe du Monde, j'ai pas regardé tous les matchs, mais j'ai trouvé qu'on avait un spectacle de qualité dans l'ensemble et c'est bien. Au moins, on découvre. Ouais. Des choses nouvelles. Bon,
Philippe,
ça,
Philippe, pour dire ça, il y a ta femme qui est juste derrière toi ou quoi?
Pourquoi?
Non, ce sport. Oh, mais
non, je plaisantais, bien sûr.
Non, mais c'est bien, franchement. Voilà.
Ça, mais non, mais il y a de l'engouement, on sent qu'il y a un vrai engouement.
France, il va falloir compter quand même, il y a une grosse différence de niveau, je trouve, avec l'équipe des États-Unis. Après, comme c'est un match de foot, c'est un quart de finale. Ah oui, c'est un quart.
C'est ça.
Et pardon. Et donc sur un match où évidemment tout peut arriver, c'est tout ce qui est pas vraiment à fortiori du football pur, l'environnement, la chaleur, l'envie, le mental, ça peut sauver l'équipe de France.
Le public aussi.
Oui,
attention, il y aura beaucoup d'Américains.
C'est le public.
Oui, il y a 10 000 Américains qui viennent supporter leur équipe. Mais moi, je reviens sur le problème Gaëtan Tiné, parce que Gaëtan Tiné sera en pleine bourse, ce sera un peu le Griezmann, puisqu'on parlait de Gauvin à côté, quelqu'un qui pourrait tourner. Gaëtan Tiné pourrait être, bon, on va arrêter de faire les comparatifs, mais c'est vrai, ça peut être le Griezmann. Moi, ce que j'ai aimé contre le Brésil, c'est que Corinne Diacre a essayé de faire autre chose. Le problème, c'est que Viviane
n'a pas été au
niveau. Et donc, elle revient, elle est obligée. Ou alors, tu mets Cascarino,
oui,
tu essaies autre chose.
Le changement qui aurait pu être fait, c'est sur le Sommer aussi, qui est quand même normalement censé être une joueuse, l'une des meilleures buteuses de la sélection.
C'est un peu décevant, tu
celle
veux dire.
Qu'on doit mettre dans les meilleures conditions. Là, on a l'impression que sur son côté gauche, même si Corinne Diacre ne veut absolument pas la mettre dans l'axe, ça n'a pas fonctionné depuis le début de la compétition. Alors, peut-être parce qu'elle est moins en forme, peut-être qu'elle est un peu fatiguée.
Moi, je mettrais le Sommer normalement, juste derrière Gauvin.
Normalement, alors, plus près de la surface, ça peut quand même permettre
après, le côté gauche, le côté gauche, il n'a pas changé parce que du côté de l'Olympique Lyonnais, Amel Majri et Eugénie Le Sommer, elles jouent quotidiennement ensemble de cette façon-là. Donc, je pense qu'elle reste dans ses convictions, dans ses certitudes par rapport à ça. Après, il est vrai, et Corinne Diacre l'a dit à juste titre, elle a dit que Eugénie Le Sommer n'était pas à 100% depuis ce début de mondial.
Elle reste
essentielle. C'est vrai. Maintenant, c'est vrai qu'on aimerait quand même davantage de sa part, mais c'est une joueuse quand même qui est hyper importante dans ce dispositif.
Je voudrais quand même parler, Franck, de ce choix tactique. Voilà, de jouer soit en 4-4-2, soit en 4-4-1-1, si on reprend un peu les choses. La problématique des joueurs de côté. Enfin, des joueuses, pardon, de côté, que ça soit Le Sommer ou Diani ou Cascarino à droite. Quand vous êtes dans un système avec deux lignes de quatre à plat, c'est-à-dire que à chaque fois que vous récupérez un ballon, je dirais pas forcément très haut, mais à chaque fois que vous récupérez un ballon, les joueuses de côté ont une distance énorme à parcourir. Quand vous jouez dans un 4-3-3, peut-être un peu plus classique, je dirais avec trois vrais milieux de terrain et pas un numéro 10, mais trois vrais milieux de terrain, ça permet à vos joueuses de côté d'évoluer un petit peu plus haut et surtout d'avoir un marquage, comme on dit, un replacement un petit peu plus axial. Donc elles ont moins de distance à faire, donc elles peuvent faire partir, elles peuvent faire parler leur vitesse. La problématique que j'ai avec Le Sommer, c'est qu'à chaque fois qu'elle touche un ballon, elle est à 45 mètres du but adverse.
Voilà.
Et que quand vous êtes en fin de saison, quand vous avez des chaleurs, c'est pour moi la responsabilité du sélectionneur ou de la sélectionneuse de la mettre plus haute sur le terrain. Parce que c'est la joueuse qui doit vous faire gagner la Coupe du Monde. Nous, on a Mbappé qui nous a fait gagner la Coupe du Monde chez les garçons. Chez les filles, c'est Le Sommer qui doit faire gagner cette Coupe du Monde. Et de la mettre à chaque fois, à chaque récupération de balle, à 45 mètres, 50 mètres du but adverse, je trouve que c'est pour moi une erreur. Une erreur parce que, et pour l'instant, ça me conforte dans ce que je pense, parce que offensivement, on l'a dit, il y a eu peut-être 6 occasions franches en 4 matchs, si on enlève les coups de pied arrêtés. Oui.
Est-ce que c'est pas un problème de bloc équipe aussi qui est un peu trop bas?
Le bloc équipe, notamment avec la petite Torrent à droite, accent américain.
Il est pour les États-Unis ce soir.
Si tu la mets plus haut dans ce bloc là. Ouais. Elle va être en difficulté parce qu'elle a pas beaucoup de puissance. Elle va faire des petits pas.
Mbok peut couper derrière puisqu'elle est extraordinaire.
Oui, mais ça c'est du domaine de elle peut éventuellement pour placer un bloc plus haut, il faut que tu sois en capacité d'avoir des défenseurs ta ligne de 4 qui soit assez rapide. Et là c'est pas le cas aujourd'hui.
Laure, pour conclure sur le positionnement de Le Sommer notamment.
Non, mais je rejoins Willy dans ce qu'il dit. La France en fait, elle souffre quand elle a le ballon. De manque de présence dans la surface de réparation. Et c'est-à-dire qu'il y a énormément de déchets dans les centres, mais parfois, ce n'est pas forcément aussi de la faute de la centreuse.
C'est parce qu'il
n'y a pas assez de solutions dans cette surface de réparation. Et c'est vrai qu'on a l'habitude, et les Américaines, qui, elles, évoluent en 4-3-3, bien déterminées, ont cette présence dans cette surface de réparation. Et justement, moi, mon inquiétude, c'est que j'ai peur qu'à un moment donné, on prenne l'eau au milieu de terrain. Donc, on verra un petit peu ce début du match et comment Corinne Diacre a décidé un petit peu de défendre par rapport à ces Américaines. Bah, je pensais que peut-être elle repasserait plutôt à un 4-3-3 assez classique pour densifier son milieu de terrain et mettre des joueuses qui prenaient.
Ou alors tu peux aller sur un 4-4-2, mais tu fais le choix, par exemple, milieu gauche, tu fais comme Deschamps a fait. Tu mets un milieu de terrain avec un profil un peu plus défensif, plus traditionnel, et tu mets le sommeur plus haut.
Tu peux mettre Majerie en milieu
de terrain. Bah, je pensais que moi, voilà, être en train de mettre Majerie un peu plus haut.
Bah, parce que Majerie, c'est pas un arrière-gauche, hein, pour moi.
Enfin, elle veut jouer plus haut, effectivement.
Elle aimerait bien jouer plus haut.
18h25 sur RMC. On vous rappelle ce rendez-vous France-États-Unis. C'est tout à l'heure 21h en direct, en intégralité, dans l'intégrale Coupe du Monde. Merci Laure. On te retrouve tout à l'heure, juste après 19h. On retournera évidemment au Parc des Princes avec Anthony Reich et Jeannot Rességuier d'ici 20h.